Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Emeline Amétis.
C'est parti !
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Chaque livre de Marianne Diaye est un événement et le dernier, La Vengeance m'appartient, publié aux éditions Gallimard, marque la rentrée littéraire hivernale. C'est un roman en forme d'énigme et on va en parler justement avec Emeline. Salut.
Salut, ça va ?
Ouais, toi ?
Oui, très bien.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch, de ce roman ?
La Vengeance m'appartient, c'est un livre haletant qui se vit à travers le regard de Maître Suzanne, une avocate bordelaise qui se voit confier un dossier épineux par Gilles Principeau, un homme qu'elle croit avoir connu pendant son enfance. Quand elle le rencontre, Maître Suzanne est si bouleversée qu'elle a l'impression qu'on lui porte un coup violent au visage. Elle est persuadée d'avoir passé un après-midi dans sa chambre alors qu'elle avait 10 ans et que lui était tout jeune homme. Cette première impression est de celles marquantes qui ne partiront jamais. Mais s'il vient ce jour-là à son bureau, c'est pour une affaire sordide puisque sa femme, Marlene Principeau, est accusée d'avoir assassiné de sang-froid leurs 3 enfants.
On écoute un extrait du roman qui raconte ce souvenir d'enfance où la narratrice se trouve dans la chambre de cet adolescent.
Il l'avait complimenté, flatté, évalué, aussi d'une note dont Maître Suzanne ne se rappelait pas le chiffre. Lui avait-il dit « Tu es une bonne petite élève, tu me plais bien ». Maître Suzanne n'en était pas certaine. Elle l'avait peut-être, cette phrase, inventée dans son lit ce soir-là. Encore bouleversée et vibrante des émotions presque insoutenables de l'après-midi, lequel s'était achevé dans le torrent de son propre discours. Car elle n'avait cessé de parler au garçon qui, croyait-elle, se rappelait, se contentait de l'écouter en la relançant parfois d'un mot, d'une question amusée, sans doute et fière certainement d'avoir amené sans y travailler beaucoup cette fillette à se connaître elle-même ou à entrevoir ce qu'elle devait devenir. C'est grâce à lui, venait de confier Maître Suzanne à ses parents, que je suis avocate aujourd'hui. Sa figure s'était alors échauffée sous l'effet d'un léger embarras, comme si, assurée d'être sincère, elle découvrait en le disant qu'elle ne l'était pas tout à fait sans néanmoins savoir comment elle était peut-être insincère. Sans même parler du pourquoi, puisque pour la première fois, elle ouvrait son cœur à ses parents. Mais que t'a-t-il fait dans cette chambre ?
Oui, alors, tu l'as dit, c'est un triangle infernal entre 3 femmes, une mère infanticide, son avocate et la femme de ménage mauricienne de l'avocate. On va d'abord présenter un peu l'autrice. Si on ne la connaît pas, Marianne Diaye, 53 ans, a débuté en 1985 avec un texte qui s'appelait « Quant au riche avenir » et elle n'avait à l'époque que 17 ans.
Il n'y a pas eu d'éléments déclencheur de mon désir d'écrire parce que ce livre, donc le premier qui a été édité lorsque j'avais 17 ans, il n'était pas le premier que j'écrivais, loin de là. Il était peut-être le 8e ou 10e, je ne sais pas très bien. J'écrivais depuis longtemps, j'écrivais depuis l'enfance et finalement ce livre édité a été l'aboutissement d'un processus entamé déjà depuis longtemps.
On peut aussi citer La Divine, par exemple, un roman paru en 2013. C'est également une femme de théâtre et, on ne l'ignore pas, elle a reçu le prix Goncourt en 2009 pour son livre « Trois femmes puissantes ». Le terme a depuis connu une certaine postérité et on lui doit bien ça. Alors Marianne Diaye est née d'une mère française et d'un père sénégalais, mais elle a été surtout élevée par sa mère. Elle a vécu plusieurs années à Berlin, d'où elle observait la France de loin, puis elle est rentrée en France et s'est installée à Bordeaux, où se passe justement ce dernier roman. À propos de son écriture, elle-même se définit comme une romancière de l'ambiguïté et même comme une technicienne. On l'écoute parler de son travail sur France Inter.
Je suis, je crois, purement romancière au sens où j'ai le sentiment d'inventer mes personnages bien plus que de les faire naître d'après des êtres réels que j'aurais pu rencontrer.
C'est aussi quelqu'un qui écrit au présent et sur le présent.
Effectivement, c'est ce qu'on peut considérer comme une autrice du réel. Et comme dans de précédents livres, Marianne Diaye construit une héroïne hypersensible, transfuge de classe, mais c'est pourtant la première fois, dit-elle, qu'un fait divers lui inspire des personnages de romans. Pendant 2 ans, elle a travaillé avec la documentariste Alice Diop à coécrire le premier long métrage de fiction de la réalisatrice, un film de procès inspiré par celui de Fabienne Cabou, une mère infanticide qui a avoué avoir abandonné Adélaïde, son enfant de 15 mois, à la mère en 2013. On écoute Alice Diop en parler dans un documentaire radio sur France Culture en 2016.
En fait, je suis aussi allée au procès nourrie par un certain nombre d'a priori et de fantasmes qui, au fond, ne correspondaient pas du tout à la réalité. Je veux dire, Fabienne Cabou est une femme puissante. Et justement, je trouve que c'est important de ne pas l'enfermer là-dedans. Ce n'est pas la pauvre femme africaine complètement victime d'un homme blanc, même s'il y a quelque chose d'assez trouble dans leur couple, et qu'effectivement, les rapports de domination... Mais je ne suis pas sûre que les rapports de domination soient dans un endroit aussi simple que je l'avais projeté, moi. C'est beaucoup plus complexe, je trouve.
C'est justement cette tragique histoire qui donnera naissance au personnage de Marlene Principeau et de son avocate, Maître Suzanne.
Oui, effectivement, il faut rappeler que Fabienne Cabou avait écopé de 20 ans de prison et qu'elle disait à son avocate qu'elle ne voulait pas être défendue. Ce qui est aussi le cas dans le roman de Marianne Diaye. On perçoit par ailleurs d'autres échos lointains de certaines affaires d'infanticide, comme celle de l'affaire Courgeot qui a eu lieu en 2009. C'est ce qu'on appelait à l'époque, je mets des guillemets, l'affaire des bébés congelés.
Véronique Courgeot, soupçonnée de 3 assassinats.
Découvert à l'été 2006, cette affaire avait provoqué un immense émoi.
Ce qui a pu l'amener à supprimer par 3 fois ceux à qui elle avait donné la vie. C'est le dossier de cette édition. Une image de la vie ordinaire. Véronique Courgeot dans la cuisine de sa maison à Séoul. Elle reçoit des amis. Dans une pièce attenante, un congélateur. Seule Véronique Courgeot connaît son exacte contenance.
Alors ce triple infanticide qui est au cœur de ce roman, comment peut-on l'expliquer? Puisqu'il y a d'un côté un mari, Gilles Principeau, qui dit aimer sa femme Marlene, tout en la laissant au foyer et en lui imposant de renoncer à son travail. Et de l'autre, une épouse qui déteste son mari, mais dit aimer ses enfants. C'est un tableau de l'emprise et d'une relation toxique, même si le geste criminel excède cette explication. C'est en tout cas un élément de réponse. Marlene Diaye elle-même le rappelle, tuer ses enfants n'est pas un geste d'amour. Pour revenir sur ce phénomène, pour le contextualiser, il y a d'un côté le phénomène qu'on appelle le néonaticide, c'est-à-dire celui de la grossesse clandestine, et celui qu'on appelle filicide, c'est-à-dire le meurtre d'un enfant après la naissance. Ces phénomènes sont souvent montrés dans les médias comme étant contre nature pour les femmes. Il faut rappeler qu'ils ont longtemps été une forme de régulation des naissances, en tout cas dans l'Antiquité.
La revue Enfance et Psy y consacrait un numéro entier en 2009, justement. Et je cite « Dans notre société où les naissances peuvent être régulées, l'acte d'infanticide bouleverse nos repères. Cet acte n'est plus socialisé, mais devient au contraire le fruit d'un isolement radical et de la dérive d'une personne entourée de silence. Que penser alors des dénis de grossesse, des dépressions maternelles, des négligences parentales, autant de problématiques retrouvées chez les parents infanticides qui invitent à repenser la clinique dans les lieux de soins, les lieux d'incarcération et le travail d'expertise.
Oui, c'est intéressant ce texte, puisqu'il permet aussi de penser la prise en charge et la prévention au-delà de l'opprobre et du jugement moral que tout ça peut susciter. Il y a un autre point de vue qu'on peut mentionner ici, c'est celui de la psychanalyste Anne Dufour-Mantel, qui est décédée, mais qu'on aimait bien, qui fournit une analyse dans la même revue à partir de la notion de sacrifice et de ce qu'elle appelle la mère sacrificielle. C'est-à-dire, donc je la cite, « Il s'agit de repérer ce dont l'infanticide peut être le symptôme. Pour cela, il faut interroger le circuit de la dette impossible face au donner la vie, auquel ne peut répondre qu'un don inconditionnel de la mère au nom de la séparation. » Anne Dufour-Mantel émet ainsi l'hypothèse de ce qu'elle appelle le trafic du sacrifice sur fond d'une mémoire interdite avec laquelle la mère sacrificielle est aux prises. À partir du mythe de Médée, un autre visage de la mère infanticide se dégage, celui d'un refus. Refus d'endosser la hantise d'un trauma dont on la charge, alors qu'elle en incarne la rémanence. En jeu, le rapport du sacrifice à la vérité. À qui s'adresse le sacrifice de son enfant par une mère? Voilà, c'est une analyse qui est peut-être un peu alambiquée, mais ce qui est certain, c'est que le spectre du personnage de Médée plane sur le roman à tel point que l'un des enfants assassinés s'appelle d'ailleurs Jason, donc comme dans la mythologie. Mais revenons-y justement, la vengeance m'appartient, donc c'est le titre de ce roman, mais de quelle vengeance parle-t-on et pour qui? On va écouter un deuxième extrait.
Il apparaîtrait que Marlene, après que ses enfants étaient nés et qu'elle avait cessé de travailler, suivant la suggestion de Gilles, affirmerait-elle, s'était enfermée dans l'idée que n'exerçant plus son métier de professeur de français au collège, elle devait montrer à son mari, à sa mère, fâchée que sa fille cessât de travailler, renonçât à être brillante et indépendante, et à ses sœurs qu'elle exerçait, comme mère de famille, un métier aussi louable, difficile, digne de respect que celui de professeur. Elle a voulu être une mère de famille de haut niveau, comme une athlète, se dirait Maître Suzanne.
Et s'il y a une chose qui m'a interpellée dans ce roman, c'est que tout ce que vit Maître Suzanne s'est expérimenté sous le prisme de la hiérarchie sociale. Elle est fille d'un père fonctionnaire et d'une mère femme de ménage, et elle le dit clairement, elle s'est extirpée de son destin social. Elle n'est d'ailleurs jamais nommée autrement que par le titre qu'elle porte, on ignore son prénom, mais on sait en revanche celui de sa femme de ménage, dépourvue de nom de famille. Et alors, on comprend très vite que son métier d'avocate, bien qu'elle ne s'estime pas talentueuse, représente toute sa vie. Et tout semble bancal, et ça a l'air de générer beaucoup de frustration en elle. Elle a un appartement chic, mais il fait 40 mètres carrés. Elle garde sa Twingo « minable » entre guillemets quand elle rêve en secret d'une voiture de luxe rutilante. Elle n'a pas besoin d'une femme de ménage, mais elle le fait par, entre guillemets encore, « militantisme » et se félicite de travailler à ce qu'elle obtienne des papiers. Et je trouve qu'on ressent justement toute cette ambivalence dans la relation qu'elle entretient avec Sharon, sa femme de ménage. Elle désespère de ne pas lier une amitié avec elle, mais elle a parfois des pensées méprisantes et un comportement infantilisant à son encontre. Je pense notamment au soir où elle lui noue une écharpe autour du cou, sans piper mot, et sans lui laisser le choix de refuser. Et pour moi, Maître Suzanne, elle est animée par un sens de la justice que je qualifierais d'hypocrite, ou en tout cas dans la performance. Au micro de France Inter, Marine Diaye explique « Dans la relation avec Sharon, il y a beaucoup de silence de la part de Sharon et d'imaginaire de la part de Maître Suzanne. Elle a l'impression que la pure Sharon la méprise, sent quelque chose de trouble à son sujet, comme une flétrissure. »
Oui, on voit bien... Dans cette citation que Marie-Anne Diaye pratique l'art de l'esquive, puisqu'il est quand même assez évident que ses rapports sous-tendent toute son écriture. Dans une interview à l'Obs, elle raconte « C'est une question que j'essaie de ne pas travailler justement, peut-être parce que je n'ai pas grand-chose de très original à en dire. » Alors personnellement, moi je préfère me référer au roman plutôt qu'aux propos de la romancière. Ouais. D'ailleurs, voyez ce que Marie-Anne Diaye dit de ses personnages au micro de France Inter.
D'ailleurs, parce que les trois personnages principaux se trouvent être des femmes, plus retors qu'ils n'en ont l'air et que l'apparence qu'elles peuvent donner d'un état de grande dérédiction ou d'abandon, comme vous le dites, cette apparence est peut-être trompeuse. Elles ont peut-être, enfin c'est ce qu'il m'a semblé en tout cas quand j'ai eu fini le livre, une autorité qui n'est pas flagrante mais qui n'en est peut-être pas moins sûre.
Alors est-ce que c'est un roman déroutant? Est-ce que toi il t'a perturbé, laissé perplexe? Dans la presse, je sais qu'on lui reproche une construction savante et froide, ou au contraire qu'on célèbre un grand roman sur l'enfermement féminin. T'en penses quoi, toi ?
Alors moi déjà, en préambule, je dirais que c'est quelqu'un qui m'intimide beaucoup et que je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, c'est Les Grandes Personnes, donc j'aurais du mal à juger ce livre à l'aune de toute son œuvre. On m'a offert Rosie Carpe, j'avais essayé de lire Trois Femmes Puissantes à l'époque parce que je suis toujours curieuse des prix Goncourt, et en fait j'avais abandonné, j'avais trouvé que c'était trop difficile à lire. D'ailleurs, une amie me dit souvent qu'elle a un problème avec les virgules chez Marie-Anne Diaye. Je trouve que c'est un détail assez drôle. Mais c'est vrai que c'est une artiste qui pratique l'expérimentation formelle et que ça rend parfois la lecture assez ardue. Je pense que ça dépend aussi des livres. En tout cas, en l'entendant parler, je me dis que c'est une écrivaine rigoureuse, mais aussi un peu retorse. Et je pense qu'il est bien aussi de noter qu'on ramène toujours les femmes noires ou racisées à la question de la francophonie et non pas à la littérature française, et que Marie-Anne Diaye elle-même est dépositaire de certaines de ces tensions. Je vais citer l'universitaire Gada Saber qui a écrit un article à ce sujet, je la cite. À travers certaines interviews faites avec Marie-Anne Diaye après la parution de son roman « Trois femmes puissantes » en août 2009, nous avons pu déceler un conflit déchirant qui s'empare de l'âme et de l'esprit de cette écrivaine. Diaye refuse catégoriquement d'endosser l'étiquette africaine ou même celle de métisse. Elle Elle ne cesse jamais de récuser ses origines africaines tout en revendiquant une identité littéraire purement française. Pourtant, c'est elle-même qui déplore ailleurs cette double culture qu'elle n'a pas pu ou voulu avoir. Voilà, je trouve que c'est encore une ambiguïté qui est intéressante chez Marine Diaye. En tout cas, le décor de ce roman, c'est bien Bordeaux. Et l'autrice nous rappelle qu'il s'agit d'un ancien port négrier sur lequel toute la vieille bourgeoisie bordelaise s'est construite. Et ce n'est pas anodin. Voilà. Et toi, ton avis sur le livre ?
Bah écoute, moi je l'ai lu presque d'une traite parce qu'il m'a tenue en haleine. Alors en général, je suis assez sensible aux thrillers psychologiques, mais là, ce qui m'a particulièrement intriguée, en dehors des rapports de classe, c'est cette histoire de mémoire que l'on questionne. Cette mémoire hésitante, peut-être faussée, défaillante, presque fabriquée, y compris sur des détails. À quel point est-elle fiable ? Et tout le monde met Maître Suzanne en doute. Son employé Sharon, son ex-amant, ses parents, Gilles Principeau. Et le doute subsiste pour tout. Ça m'a énormément renvoyé au gaslighting, cette technique de manipulation mentale dont l'expression a été tirée de la pièce puis du film Gaslight, qui met en scène une Ingrid Bergman tourmentée par son mari qui veut la persuader de sa propre folie.
If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things.
Gregory, are you trying to tell me I'm insane?
It's what I'm trying not to tell myself.
But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now, ever since...
Since what?
Since the day I lost your brooch. Yes, that's when it all began.
Marine Diaye ne laisse aucun mot, aucune tournure au hasard, et ça donne limite envie de revenir au paragraphe précédent ou à la page précédente à chaque fois, et ça rend la lecture presque interactive. On se retrouve comme Maître Suzanne à revisiter le livre comme elle le fait avec ses souvenirs. En tout cas, moi, ça m'est arrivé presque tout le temps. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait de ne pas avoir toutes les réponses.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un risque à cultiver cette frustration pour le lecteur ou la lectrice, est de nous laisser un peu sur notre faim ou sur le bord de la route.
Ouais.
C'est évident que ce qui intéresse Marine Diaye, c'est la nuance, plus que de prendre parti ou de donner des réponses. Mais voilà, ça a un coût. Moi, j'ai été assez frappée par le titre de ce livre, on dirait presque un James Bond.
Ouais.
D'ailleurs, quelqu'un parlait des films de Claude Chabrol. C'est vrai qu'on retrouve là quelque chose de cette ambiance de province un peu compassée. C'est un récit assez inquiétant qui est travaillé par une forme d'opacité et d'égarement. Tu parlais justement du souvenir et de la mémoire. Mmh. D'ailleurs, la narration même du roman n'est pas fiable. L'héroïne est toujours appelée Maître Suzanne, ce qui produit, en tout cas pour nous, un sentiment de mise à distance. D'ailleurs, je vais citer l'universitaire Andrea Madalina Neamtu Voiku, qui écrit dans la revue Ostium à ce sujet. Ce qui frappe en général chez tous les protagonistes, c'est la bizarrerie, la subjectivité et la mutabilité de leurs portraits. Un éventail de représentations parfois paradoxales se met en place. Et je trouve que ça s'applique assez bien à ce nouveau roman, dont la construction et l'écriture sont impressionnants. D'ailleurs, il y a au moins deux moments de bravoure lorsque l'époux et l'épouse ont chacun leur propre monologue qui est scandé. C'est un moment très frappant où le mari commence toutes ses phrases par « car » et la femme commence toutes ses phrases par « mais
». C'était assez impressionnant à lire, effectivement.
Voilà, c'est presque un moment de poésie. Donc voilà, j'ai trouvé ce roman impressionnant, mais je ne saurais pas dire si j'ai pris du plaisir à sa lecture. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le livre dialogue avec beaucoup de préoccupations très actuelles et qu'il condense beaucoup de choses dont on parle ici dans le podcast, à la fois la mémoire traumatique, les soupçons d'inceste, la parole des victimes, les femmes en situation de précarité, l'emprise du mari. Et il est vrai que la lecture de ce roman en plein moment, MeToo inceste n'est pas anodine, me semble-t-il.
Effectivement.
Voilà, alors j'espère qu'on a fait le tour de la question, qu'en tout cas on a donné quelques éléments de réponse pour lire le livre de Marine Diaye. Vous pouvez nous dire si vous l'avez aimé ou pas, nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez aussi retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de handicap et de validisme. Merci. Salut, Emeline.
Salut.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo
avec Emeline Amétis.
Prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Mixage Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation, montage et coordination Ashley Tola.